Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Зустрічі з оперною студією.
歌剧工作室的约会。
Opera Studio Rendezvous.
Stefan Preton from Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Встречи с оперной студией.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
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 Eh bien, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de RDL 68. Nous voici en présence pendant 30 minutes pour cette nouvelle émission des rendez-vous de l'Opéra Studio. Aujourd'hui, j'accueille un baryton russe qui s'appelle Andrei Maximov qui fait une double performance ce matin, tout simplement parce que il est en France depuis un an et que donc il apprend le français depuis quelques mois. Donc il a accepté de faire cette interview et je l'en remercie. Et d'autre part, hier soir, il était sur le plateau de la scène de l'Opéra du Rhin à Strasbourg pour chanter dans la production de Turandot qui est actuellement donnée. Et donc, il tenait le rôle du mandarin. Donc, cher Andrei, un grand merci et grand bonjour pour ce moment de discussion ensemble. L'Opéra Studio, comme vous le savez, est basé à la Comédie de Colmar, dans le bâtiment de la Manufacture. 8 chanteurs, 2 pianistes et un chef d'orchestre travaillent quotidiennement dans les locaux. Que vous dire de plus? C'est une ambiance de travail, de convivialité, de bienveillance, d'entraide. On fait beaucoup de musique, on fait beaucoup de projets et puis c'est un moment, comment dirais-je, ce sont des jours et des jours qui se suivent, qui ne se ressemblent pas vraiment, et on monte des projets et on apprend la musique, l'air lyrique, etc. Donc, cher Andrei, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons commencer cette interview tranquillement avec la toute petite première question qui me vient à l'idée. Depuis quand fais-tu de la musique?
J'ai commencé à jouer de la musique à l'âge de 5 ans. Ma mère et ma grand-mère sont musiciennes, tous deux diplômés dans le conservatoire. J'ai la chance d'avoir, depuis l'enfance, une très bonne oreille musicale. Et je me souviens très bien que j'ai pleuré à l'âge de 3-4 ans parce que je n'arrivais pas à atteindre avec ma voix une note que j'ai jouée au piano et que j'entendais dans ma tête. Mes accords étaient encore très jeune. Ma mère travaillait beaucoup. Nous vivons dans la pauvreté et j'étais souvent seul. Mon temps passe favori était d'inventer des histoires que j'illustrais avec des sons de piano et que j'enregistrais sur des cassettes pour les monter à ma mère plus tard.
Bravo, ben on comprend très bien. Merci, bravo Andrei pour ton français. Oui, alors donc tu étais souvent tout seul et donc pour t'occuper, tu imaginais des histoires que tu mettais en musique et pour que ta maman qui était partie travailler puisse entendre, et puis tu devais être tout fier de montrer ça à ta maman, tu les enregistrais et ta maman les écoutait le soir. Voilà, c'était comme ça, ton quotidien. C'est très joli. Et donc, tu as toujours fait de la musique, finalement, c'était ton passe-temps favori. Mais est-ce qu'un jour, il t'est arrivé quelque chose ou est-ce qu'un jour, tu as rencontré une personne qui a fait que tu t'es dit, eh bien, je veux faire de la musique plus tard? Tu as commencé à devenir musicien quand tu as chanté peut-être dans une chorale, c'est ça? Est-ce que tu as fait de la musique ensuite?
J'ai commencé vraiment à chanter dans une chorale à l'âge de 10 ans.
D'accord.
Et le chant est un domaine dans lequel je voulais devenir professionnel. Il me captivait vraiment. Avant cela, j'ai essayé de jouer le piano, du violon, du saxophone, mais je n'avais pas l'endurance nécessaire. Et enfin, on m'a diagnostiqué un trouble déficitaire de l'attention et seule la musique vocale avait un effet thérapeutique sur moi.
Eh bien, je trouve que pour un garçon tu as essayé de jouer du piano, du violon, du saxophone. Tu as beaucoup de curiosité pour la musique et les instruments. Bravo. Donc, tu as chanté dans une chorale à l'âge de 10 ans. Et donc, tu as remarqué que finalement, seule la musique vocale était un vecteur qui te permettait de te concentrer sur quelque chose. Tu avais plus de mal pour l'étude d'un instrument, mais donc quand tu chantais, ton attention était beaucoup plus soutenue et tu arrivais à maintenir cette attention. Et donc, tu es devenu petit à petit chanteur professionnel. Parce que franchement, tu es chanteur professionnel. Quand on chante sur la scène de l'Opéra National du Rhin, on est chanteur professionnel. Mais avant d'arriver là, ton premier souvenir musical, quel est-il ?
Ma mère avait l'habitude de me chanter des berceuses, des airs très simples qui sont courants dans le folklore. Ma mère remplaçait toujours le nom de l'air par mon nom, mais en petite forme comme Andrusha. Oui. Et depuis ce temps, j'aime quand quelqu'un m'appelle Andrusha.
Ah, très bien.
C'est quelque chose de
de très doux.
Oui. Oui. Et c'était probablement la toute première impression, oui. Et en général, il y avait toujours de la musique dans notre maison. Ma mère jouait du piano. Et nous avions aussi des disques. D'abord des disques, puis des cassettes et des CD. Et ma grand-mère avait une grande collection de disques, et à l'âge de 6 ou 7 ans, j'avais déjà attendu mes premiers disques d'opéra.
Ah oui, donc ton éducation musicale a commencé très très tôt. Et merci à ta maman de t'avoir chanté toutes ces berceuses, parce que grâce à elle, voilà, tu es ici aujourd'hui. Et c'est une très très jolie histoire. Donc, ta maman chantait, tu composais, tu inventais des histoires, tu les enregistrais, tu les faisais écouter à ta maman, et un jour, tu as dû prendre ton premier cours de chant. Alors, comment s'est passé ton premier cours de chant ?
Mon premier professeur de musique professionnel a été Stanislav Grybkov. Il était chef de chœur d'enfants dans lequel j'ai été soliste pendant 5 ans. Et était le professeur exceptionnel. Et il était là, pas seul pour moi, mais pour les autres enfants. Mais j'ai appris beaucoup de son manière de guider cette collectif choral.
D'accord.
Et mon premier professeur de chant lyrique, Natalia Latosheva, que j'ai suivi après le chœur, est le seul professeur dont j'ai suivi la méthode. Cette constance m'aidait à surmonter systématiquement toutes les difficultés du répertoire.
Donc c'est vraiment ton professeur de référence. Quand tu as une difficulté technique, tu te demandes comment ce professeur aurait résolu le problème. Et donc tu penses à tous ses conseils et tu arrives à résoudre les problèmes techniques quand ils se présentent. Bien. Et donc tu joues d'un instrument, mais oui, tu m'as répondu à la question, j'avais préparé ma petite question. Tu joues du piano. Mais le fait de jouer du piano t'amène peut-être à créer effectivement des opéras, des extraits, enfin des œuvres de musique de chambre, etc. Donc bien sûr tu joues du piano et donc ça t'aide à apprendre des parties d'opéra. Mais est-ce que tu as étudié également peut-être la direction d'orchestre ?
J'ai essayé le mois prochain. On a fait le première de mon premier opéra Varava à Vienne en Suisse et j'ai dirigé l'orchestre.
Donc
aussi.
Tu as fait le mois dernier, pas oui. Le mois prochain, le mois dernier. Non, mais on te pardonne, André. C'est-à-dire il y a un mois, as dirigé l'opéra que tu avais toi-même composé. Et non seulement tu as dirigé, donc tu l'as composé, tu as dirigé. Est-ce que tu as chanté à l'intérieur de cet opéra ?
Oui, j'ai chanté une rôle aussi.
Bah oui, non, c'est bien. Tu es, je pense, assez multifonction. Et donc ma transition est toute faite. Nous allons écouter maintenant l'air de Figaro, dont tu nous parleras tout de suite après que nous l'ayons entendu. Donc l'air de Figaro par Monsieur Andrei Maximov. très bien, monsieur Andrei Maximov, dans l'air de Figaro du Barbier de Séville de Rossini, enregistré en 2022. Tu étais accompagné par l'orchestre du Teatro Carlo Felice de Gênes. Et quel air, quelle énergie, quelle bravoure dans cet air. Bon, ne fais pas ces yeux-là, tu as entendu tous les petits défauts, nous on a entendu toutes les grandes qualités. C'était très très beau. Alors, qu'est-ce qu'un baryton? Parce qu'on a plusieurs voix de ténor, de messieurs, plusieurs voix, plusieurs types de voix. Donc, il y a ténor, il y a baryton. Chez les messieurs, globalement, il y a basse, disons, voilà. Il y a haute contre également. Donc, toi, tu es baryton. Qu'est-ce qu'un baryton?
En général, il s'agit de la voix masculine la plus répandue.
Très bien.
Ni haute, ni basse. Il existe plusieurs types de voix en fonction des personnages à interpréter. Je suis fait pour les rôles de baryton lyrique, le Négin souffrant, ou le Figaro jovial et
insouciant que nous venons d'écouter. Bravo, c'était très énergique, tu pourrais rajouter. Alors, tu t'es présenté à l'Opéra Studio en début de saison dernière, tu es rentré à l'Opéra Studio en août 2022. Avant ça, bien sûr, tu avais passé une audition. Je rappelle à nos auditrices et nos auditeurs qu'il y a de très nombreux candidats qui se présentent pour rentrer à l'Opéra Studio. Et donc, toi, tu as passé cette fameuse audition, tu as été pris. Et donc, pourquoi as-tu souhaité rentrer à l'Opéra Studio?
L'Opéra Studio a été pour moi l'occasion de découvrir la culture lyrique française et, en fin de compte, de l'aimer. Le fait est que la langue française est très pratique à chanter, en particulier pour les chanteurs de l'Europe de l'Est. Je suis tombé amoureux du chant en française et je peux maintenant incorporer sans crainte des airs et des rôles d'opéra dans mon répertoire. Bien sûr, la valeur ajoutée de l'Opéra Studio est qu'il me donne l'occasion de participer à des projets théâtraux, puisque je chante actuellement le rôle du mandarin dans la série de Turandot et j'apprends beaucoup de mes merveilleux collègues.
Oui, en effet, à l'Opéra Studio, beaucoup de répertoires différents sont étudiés, sont abordés par les jeunes chanteurs et donc effectivement la mélodie française a été abordée pendant cette saison à l'occasion d'une masterclass avec le grand chanteur François Leroux, tout à fait spécialiste de ce répertoire. Répertoire et qui a donné lieu à un concert à une heure lyrique, Poulenc, autour de Poulenc, et dont tu avais chanté le fameux Prier pour paix de Poulenc que nous entendrons au cours de cette émission. Et puis, effectivement, tu es, comme tu l'as rappelé, dans la production de Turandot en ce moment, qui est donnée à l'Opéra du Rhin, qui va être donnée encore à Strasbourg puis à Mulhouse. Tu fais le rôle du mandarin. Et la particularité notamment de l'Opéra Studio, c'est que les jeunes chanteurs comme toi qui sont dans cette institution ont l'occasion de chanter auprès d'artistes professionnels et dont tu chantes dans le Turandot aux côtés d'artistes professionnels et donc ça te fait des belles rencontres, tu peux beaucoup apprendre à leur contact et c'est toujours très très riche d'enseignements artistiques et humains, c'est un petit peu le but de cet Opéra Studio.
Oui, j'avais aussi le belle critique, je peux te lire. C'est très intéressant en
oui,
fait.
Oui.
J'ai posté hier à l'Instagram.
D'accord. Oui, effectivement, une très belle critique sur le Turandot en général, mais une mention particulière pour toi. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Lis-nous ta critique.
Très petit extrait.
Vas-y.
La souple robustesse d'Andrei Maximov, occasion un mandarin mieux que probant.
Oh, bah alors.
Quand au baryton, Andrei Maximov, impérieux et un
Inquiétant mandarin.
On peut déjà lui prédire une belle carrière en Don Giovanni et en Macbeth.
Ah, bah voilà, eh bien écoute, très bien. Espérons que ce critique sera entendu, mais je pense qu'effectivement, tu es voué à une très très belle carrière. Bravo, bravo, très belle critique. Merci de nous l'avoir fait partager. Quel est le quotidien d'un artiste de l'Opéra Studio? Parce que vous n'êtes pas toujours, on n'est pas toujours en répétition pour un spectacle. Quand il n'y a pas de spectacle, qu'est-ce qui se passe tous les jours quand on est chanteur à l'Opéra Studio?
Bien sûr, cela dépend de la période pendant laquelle je suis en production. Et je dois beaucoup répéter. Mm-hmm. Mais entre les productions, il y a aussi du temps pour le travail indépendant. Et j'apprends donc le chinois, par exemple. Je suis aidé par une chanteuse de studio, Lin Yang. Et le fait qu'il y a beaucoup de cours avec des pianistes au studio est très appréciable, car cela permet de préparer le répertoire pour les auditions ultérieures.
Très bien.
Et la préparation des concerts du studio, y compris les masterclass données par les spécialistes, très intéressant. Et voilà quoi a consisté l'année.
Voilà, c'est ça, exactement, c'est très bien résumé. Il y a des productions, et entre les productions, entre les périodes de répétition des productions, en amont, on apprend son rôle avec les pianistes d'Opéra Studio, ensuite on répète la production, on donne les spectacles, mais quand on n'est pas sur une production, il y a des concerts à préparer, il y a des masterclass qui sont dédiés à des répertoires particuliers, notamment le répertoire français, mais on a fait d'autres répertoires cette saison. Et donc c'est vrai que le quotidien est relativement varié, mais le fil rouge, c'est toujours le travail, la découverte de nouveaux répertoires, et puis les langues. On doit parler plusieurs langues à l'Opéra Studio, parce que les chanteurs viennent du monde entier. Mais oui, mesdames, messieurs, ils viennent du monde entier. Et donc cette année, nous avions notre Andrei qui venait de Russie, mais on avait également Lin Yang qui vient de Chine. Et donc qu'est-ce qui se passe quand il y a deux chanteurs de langues différentes qui se rencontrent? Et ben chacun essaie d'apprendre la langue de l'autre, et ça donne des moments très très sympathiques dans notre cuisine, qui est notre lieu de convivialité à l'Opéra Studio. Donc si nous résumons ton actualité, c'est Turandot. Tu as préparé le rôle avec nos deux chefs de chant Opéra Studio, qui sont Hugo Mathieu et Levi Gerke. Donc Hugo est un pianiste français, et Levi nous vient des États-Unis. Et ensuite, je voudrais passer à je voudrais savoir si ce rôle du mandarin est le premier rôle soliste que tu as interprété, ou est-ce que tu as eu auparavant des expériences de soliste?
Quand même, j'ai travaillé comme soliste au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg pendant 7 ans, et j'ai chanté une vingtaine de rôles solistes.
Excuse-moi de t'interrompre, tu avais quel âge quand tu as fait tous ces rôles? Parce que là, tu n'es pas bien vieux, tu me dis que tu as fait ça pendant 7 ans. Si je remonte le temps, c'était à quel âge?
J'ai commencé à 17.
Ah oui, c'est très jeune.
Oui, plus tôt que j'ai commencé le conservatoire.
C'est ça. Tu as commencé à chanter avant de faire le conservatoire. Oui, tu as fait un petit peu l'inverse. Mais ça ne m'étonne pas de toi, cher André. Je te laisse continuer.
Oui, et j'ai également chanté plusieurs grands rôles au théâtre de conservatoire pendant cette période. Et notamment Jean Onegin,
oui, de Tchaïkovski,
et Robert, mm-hmm, de Yolanda de Tchaïkovski, Guglielmo de Così fan tutte,
oui, de Mozart,
et Georges Germont,
ah oui, dans Traviata. La Traviata, très très beau rôle également.
Et aujourd'hui, je n'en suis qu'à ma deuxième année en Europe. On pourrait dire que je repars à zéro. Oui, un peu comme ça. Cette année, parallèlement au studio d'opéra, j'ai obtenu mon diplôme de la Haute École des Arts de Berne. Et j'espère que je pourrai bientôt rattraper cet rythme de mouvement.
De travail, oui. Ben, tu vois, oui. Pour quelqu'un qui a du mal à se concentrer, je trouve que tu fais beaucoup de choses, et beaucoup de choses très, très difficiles et qui demandent justement beaucoup de concentration. C'est très, très bien. Je vais te demander encore, avant de lancer le deuxième extrait, te poser la petite question. Quels enseignements as-tu tirés de ton année passée à l'Opéra Studio? Et qu'as-tu appris? Voilà. Quel est le bilan, finalement, de cette année passée à l'Opéra Studio? Quel serait-il?
Les études à l'Opéra National du Rhin m'ont surtout permis de prendre conscience de mes forces. Et c'est une année où j'ai pu allier réflexion professionnelle et travail de moyenne intensité.
Moyenne intensité, c'est intéressant parce que beaucoup de chanteurs trouvent qu'on travaille beaucoup à l'Opéra Studio et André, il lui trouve que c'est moyenne intensité. Donc, qu'est-ce qu'il fait ensuite?
Mais j'ai fait l'expérience de trois autres studios d'opéra, le Mariinsky, Théâtre Modena et Théâtre Bill en Suisse. Et je peux dire que Strasbourg restera en tête de mon classement personnel parce que c'est ainsi qu'un artiste grandit lorsqu'il est capable de créer quelque chose à son rythme et de le porter sur scène. Et j'ai appris le français presque à partir de zéro et j'ai fait la connaissance d'un grand nombre de personnes du monde de l'opéra européenne avec lesquelles je pourrais travailler à l'avenir. Et l'Opéra Studio a également servi de cadre à mes idées de composition. Dans des concerts avec Lauren Oliva, l'une des chanteuses de studio, deux de mes œuvres ont été interprétées.
De tes œuvres, oui. De tes œuvres, je me souviens très bien. C'était très, très beau. Vous aviez chanté tous les deux, oui.
Mais d'une manière générale, c'est mon expérience au sein d'un groupe artistique qui le distinguait par sa solidité et la volonté de chacun de s'entraider.
Oui, c'est vrai qu'il y a une très jolie ambiance à l'Opéra Studio. Oui. Il n'y a pas de concurrence, mais tout le monde aide tout le monde. C'est très vrai.
Oui, le mérité revient en grande partie à Sandrine Avello.
Merci.
Qui, par son attitude maternelle envers les jeunes artistes, et crée une famille année après année.
C'est gentil, merci beaucoup André. Mais vous êtes tellement formidable qu'on ne peut pas faire autrement que de s'occuper de vous avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Alors nous allons écouter notre deuxième extrait qui sera peut-être le... Non, ce sera pas le dernier, on va essayer d'écourter l'interview pour pouvoir écouter les deux extraits qui sont prévus. Je laisse aux auditrices, aux auditeurs le soin de découvrir cet extrait et puis je vous en parle tout de suite après.
See you.
Et c'était donc un extrait de ton opéra, l'opéra que tu as composé, Andrei, qui s'appelle Barabbas. Et tu as choisi cette terre parce que tu voulais montrer clairement la facette de ton art qui est le côté compositeur. Dans cet opéra, il y a 8 rôles principaux. Et comme tu n'as pas pu trouver assez de chanteurs, ben, tu as toi-même interprété un rôle de chanteur, en plus d'avoir composé, en plus d'avoir dirigé, d'avoir conçu le spectacle. Donc, cet opéra a été donné le mois dernier. Il est basé sur l'histoire biblique de Barabbas et Pilate, et que tu trouves être très proche de notre époque. La metteuse en scène Mira Alkovic a transformé cet opéra en un discours anti-guerre. On ne peut pas faire plus d'actualité, malheureusement. Et il se trouve que le thème de la guerre est le sujet de tous tes travaux de l'année qui vient de passer. Donc c'est assez grave, mais c'est tellement prenant que tu t'en sois saisi, et comme quand tu étais petit, que tu en aies fait une histoire à raconter à ta maman, mais à nous aussi, donc tant mieux, on en profite. Merci beaucoup. Alors, comment maintenant, puisqu'on arrive au terme de cette conversation, comment imagines-tu ta vie d'artiste ?
Aujourd'hui, notre avenir est plus sombre que jamais. Je suis très heureux que ma petite amie Mira soit également chanteuse et que sa carrière se déroule un peu mieux que la mienne. Et je suis plus préoccupé par notre réussite à tous les deux que par celle de chacun d'entre nous séparément. Et je pense que nous avons une chance dans ce monde difficile de l'opéra. Bien sûr, de nombreux concours refusent d'autoriser les Russes à participer, quelle que soit leur position sur le thème de la guerre. Et bien sûr, de nombreux théâtres ne sont pas prêts à employer des artistes russes. Mais il y a toujours des gens qui sont sensibles à la situation et qui nous considèrent avant tout comme des musiciens et non comme des gens avec des passeports rouges.
Oui, oui, je crois que ça c'est très important de le dire. La musique, l'art est international, n'a pas de nationalité, ça c'est évident. On va conclure par justement un extrait du concert Poulenc qui a été donné cette saison à l'Opéra. Et c'est le très magnifique « Prier pour paix » de Poulenc que tu as choisi de nous faire entendre. Et très rapidement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu veux nous faire entendre cet extrait ?
Oui, bien sûr, cette « Prier pour paix » correspond à 100% à mon état d'esprit. Les programmes de studio d'opéra sont repris par les pianistes et Lévy, un de pianiste, a trouvé ce morceau et a décidé de me l'offrir spécifiquement. Je lui en suis très reconnaissant. Dans cette pièce, je peux exprimer toute la douleur que je ressent face à la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine. Mon arme est la musique et je fais de mon mieux pour partager mes sentiments sur les médias sociaux. J'enregistre des improvisations, je publie des extraits de première. J'essayais par tous les moyens de soutenir les Ukrainiens et l'Ukrainienne qui sont abonnés à mes services.
Sur tes réseaux, etc. Oui, mais c'est très très beau. Nous allons donc nous quitter avec ce magnifique Prier pour paix, sans remercier à l'avance Francis qui a réalisé cette émission. Au revoir messieurs, dames. Très belle journée à vous. Merci Andrei pour ce moment passé ensemble.